Vous écoutez, on lit pour vous.
La réalité du handicap visuel, une expérience immersive à Saint-Georges. Un texte de Léa Arnaud, paru le 7 novembre 2024 dans Néo Média. Pierre-Olivier Doyon organise une journée porte ouverte à l'Association des personnes handicapées de la Chaudière, APHC, le 15 novembre à Saint-Georges, afin de partager la réalité des personnes ayant un handicap visuel. Pour sa part, il ne lui reste que 7 % de la vue et avec le temps, il deviendra complètement aveugle. Cependant, la rétinite pigmentaire de l'œil dont il est atteint ne l'empêche de foncer dans la vie comme il le dit lui-même et c'est justement ce qu'il veut prouver lors de cette journée spéciale. En plus de promouvoir ses services, la PHC proposera donc 4 simulateurs sous forme de lunettes. Il y en aura un montrant la vision de Pierre-Olivier, dont le champ visuel est restreint et taché de points noirs. Il y aura également des simulateurs pour comprendre la vision des diabétiques, ceux contractant un handicap visuel, un autre pour la vision centrale, représentant lorsque le champ visuel d'une personne diminue avec l'âge notamment, ainsi qu'un dernier, pour le scotum central où l'on ne voit que sur les côtés. On va faire des mises en situation assez comiques pour montrer au monde que ça peut être banal comme « remplir un verre d'eau », a-t-il précisé en rencontre avec embosse.com. À titre d'exemple, quelqu'un qui est myope va voir à peu près moins 2 ou moins 3 de force de verre, tandis que moi, j'ai du moins 82. Ça donne une idée. L'idée de cet événement est née d'une demande de la part des proches du Beauceron qui souhaitaient comprendre sa réalité. Eux, ils m'ont vu grandir avec la vue qui diminuait avec les années, et même si je suis ouvert pour en parler, vivre avec la maladie, c'est autre chose. Pierre-Olivier a donc monté ce projet qui a pris de l'ampleur en voyant l'intérêt des gens. Ainsi, les simulateurs seront à découvrir à l'APHC, situé au 1175 boulevard Dionne à Saint-Georges, le 15 novembre, de 13h à 17h. L'activité est ouverte à tous et gratuite. Notons également la présence de 2 professionnels qui seront disponibles pour répondre aux questions. Perdre la vue, mais pas l'énergie. Pierre-Olivier Doyon est âgé de 31 ans et vit avec son père à Notre-Dame-des-Pins. Il envisage de vivre seul dans les prochaines années. « Je suis dans les démarches, tranquillement. De nos jours, ça ne se fait pas du jour au lendemain de déménager. » Cependant, puisqu'il ne nécessite pas d'installation particulière, son objectif devrait pouvoir se réaliser sans trop de tracas. « Je suis une personne débrouillarde, je suis fonceur et j'aime relever des défis. » Il faut dire qu'il a eu le temps de s'adapter à son handicap, lui qui est né avec une maladie génétique appelée rétinite pigmentaire de l'œil. Soit mon père, soit ma mère avaient le gène en lui, mais pas la maladie. Quand ils ont commencé à avoir des enfants, la maladie a éclos. Plus tu as d'enfants, plus la maladie est développée à la naissance, a expliqué le Beauceron. Donc, au lieu de naître avec une vision à 100%, une personne peut naître à 95%, 90%, etc. Plus la vision est basse, plus vite la personne deviendra aveugle. Pierre-Olivier est l'avant-dernier de la famille. C'est pourquoi, aujourd'hui, il ne lui reste que 7%. Sa petite sœur, elle, est complètement aveugle. Il aura fallu plusieurs années avant de détecter la maladie. En 3 ans, ma vision a baissé très rapidement, alors ils m'ont envoyé voir des spécialistes à Québec. Et c'est eux qui ont découvert la maladie. Ensuite, les autres enfants de la famille, qui ne voyaient pas bien, ont passé le test et le diagnostic est sorti pour les 3 enfants. Avec le temps, sa vision se dégrade toujours. Il a perdu 0,5% au cours de la dernière année. Il ne distingue plus les couleurs et les détails non plus. Cela ne l'empêche pas pour autant de travailler. En effet, Pierre-Olivier est cuisinier dans une école de Saint-Georges. Pour l'aider, il a des outils adaptés, notamment une balance à aliments qui parle et un thermomètre de chaleur qui parle pour savoir si la viande est cuite. Ses autres sens se sont également aiguisés avec le temps. C'est sûr que si je fais cuire quelque chose, je vais rester à côté. Mais il faut dire que nos autres sens sont beaucoup plus aiguisés. Moi, j'ai l'oreille qui est très aiguisée. J'entends très bien. Même si tu es à l'autre bout de la pièce et que tu ne parles pas très fort, si je me concentre, je pourrais comprendre. Et l'autre sens qui est vraiment développé pour moi, c'est le toucher. Je peux éplucher des légumes avec juste le toucher. Je fais aussi la vaisselle et je suis capable de plier mon linge. Un outil qu'il utilise depuis moins longtemps, mais qui l'aide beaucoup, c'est sa canne. Désormais, il s'en sert presque toujours, sauf lorsqu'il est chez lui, par exemple, parce qu'il connaît son environnement par cœur. Mais pour aller magasiner, par exemple, elle devient indispensable. La canne, c'est comme nos yeux, c'est elle qui détecte les objets. C'est elle qui nous dit s'il y a un obstacle ou lorsqu'on est rendu dans la dernière marche. Mais c'est quand même technique. Moi, ça m'a pris un peu de temps, a-t-il confié. Ainsi, pour mieux comprendre sa réalité et celle d'autres personnes vivant avec un handicap visuel, rendez-vous à son événement le 15 novembre. C'était « La réalité du handicap visuel, une expérience immersive à Saint-Georges », un texte de Léa Arnaud paru le 7 novembre 2024 dans Néo Média.
Au marathon de New York, Jasmine, coureuse aveugle, veut sentir les vibrations. Un texte de l'agence France Presse paru le 1er novembre 2024 dans TV5 Monde. Au départ du marathon de New York dimanche, Jasmine Murrell, aveugle, n'apercevra pas la ligne des gratte-ciels de Manhattan ou les rangées de spectateurs en liesse, mais compte bien ressentir les vibrations de cette course hors norme. Le mari de Jasmine, Kevin Orsell, atteint d'un glaucome moins avancé que celui de son épouse, sera aussi au départ, mais ne se fait pas beaucoup d'illusions. Citation. « Après 2 ou 3 kilomètres, elle va décoller. » Fin de citation. Plaisante le trentenaire qui, contrairement à sa compagne, va vivre son premier marathon après 12 semi-marathons. Venue du New Jersey, Jasmine et Kevin pourront compter chacun sur le soutien de 2 guides de l'association Achilles International, le plus grand organisme mondial d'accompagnement des personnes en situation de handicap sur des courses d'endurance. Un des 2 guides de Jasmine s'entraîne avec elle depuis longtemps. Citation. C'est important d'avoir cette connexion, dit-elle. Il sait déjà ce qu'il faut annoncer et quelle est la meilleure façon de communiquer. Fin de citation. Jasmine, mère d'un garçon nommé Elijah, peut voir des ombres et des formes de son œil droit, mais rien côté gauche. Kevin compte sur ses accompagnateurs pour lui dépeindre un peu de la folie ambiante. Citation. Je leur dis, lisez-moi les pancartes. Il y en a pas mal qui sont drôles et elles peuvent aussi vous motiver. Fin de citation. Citation. Pour moi, ce sera les vibrations de la foule, les encouragements et tout ce bruit, explique Jasmine. Je vais convertir ça en stimulation, donc je serai aussi capable d'avoir cette poussée d'adrénaline et d'excitation. Fin de citation. Citation. Je demande toujours les préférences des coureurs avant, raconte Tiana Biscone, bénévole d'Achilles, car, citation, pour certains, courir est difficile et ils préfèrent se concentrer là-dessus, fin de citation, et limiter les échanges avec leur guide. Mais pour les concurrents qui sont prêts à discuter, dit-elle, citation, c'est vraiment sympa, surtout durant un marathon, de signaler les panneaux amusants, les costumes, de les aider à vivre ça d'une autre manière. Fin de citation. Rien à penser. Participer à un événement de masse qui réunit plus de 50 000 personnes lorsqu'on a une vision limitée ou nulle est un défi. Citation. Quand j'ai fait mon premier jogging, j'avais 22 ans et je ne m'étais jamais déplacé sans ma canne. » Fin de citation, se souvient Francesco Magisano, aveugle et aujourd'hui directeur de l'antenne new-yorkaise d'Achilles. Citation. « Courir vers l'inconnu a été l'une des choses les plus terrifiantes que j'ai jamais faites. » Fin de citation, dit celui qui a depuis fini un marathon en 3h30. Citation. « Il m'a fallu quelques mois d'entraînement pour être suffisamment à l'aise et me détendre. » Fin de citation. Le dispositif classique comprend un guide relié par une cordelette à son coureur non-voyant, ainsi qu'un second accompagnateur placé quelques mètres devant pour signaler d'éventuels obstacles et en écarter certains. Citation. L'an dernier, je n'ai pas réalisé que j'étais fatiguée avant le 40e kilomètre. Fin de citation. Sur 42, se remémore Sarah Lupusello, également bénévole pour Achilles. Citation. J'étais tellement concentrée sur le parcours. Ellipse. Le sol. Est-ce qu'il y a un trou? Une peau de banane qui traîne? Une station de ravitaillement? Fin de citation. L'antenne d'Achilles à New York est de loin la plus importante de ce réseau mondial, avec environ 700 coureurs et 4500 bénévoles. Citation. Je finis toujours par perdre ma voix après avoir guidé un marathon, parce qu'on parle tout le temps à son athlète ou pour demander aux gens de s'écarter, décrit Tiana Biscone. C'est pour ça que j'aime tant ça. C'est un défi vraiment unique que vous ne pouvez pas vivre en courant seul. Fin de citation. Si les premières sensations du coureur non-voyant sont souvent teintées de nervosité, une fois l'habitude prise et une relation nouée avec un guide, s'ouvre la porte vers la plénitude. Citation. En tant qu'aveugle, traverser la rue est probablement la chose la plus stressante que vous soyez amené à faire, selon Kevin Orcel. Mais pouvoir courir sur une route en sachant que la voie est protégée, ellipse, c'est assez libérateur. Fin de citation. Citation. C'est juste du plaisir n'avoir à penser à rien, confirme Jasmine Murel. Je n'ai qu'à courir et aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Fin de citation. C'était au marathon de New York. Jasmine, coureuse aveugle, veut sentir les vibrations. Un texte de l'agence France Presse, paru le 1er novembre 2024 dans TV5 Monde.
Bannir le sucre durant les premières années de vie réduit le risque de maladies chroniques. Un texte de Pauline Gravel, paru le 7 novembre 2024 dans Le Devoir. Les jeunes enfants qui ont été privés de sucre durant leur vie utérine et les deux premières années suivant leur naissance courent un risque significativement moindre de développer le diabète et l'hypertension à l'âge adulte. C'est en comparant des enfants nés durant le rationnement imposé à la fin de la Seconde Guerre mondiale à d'autres enfants ayant vu le jour après la levée de cette mesure de restriction alimentaire, notamment en sucre, que des chercheurs sont arrivés à cette conclusion. Leur étude, qui est publiée dans la revue Science, met clairement en évidence les effets néfastes à long terme de la consommation de sucre au début de la vie. Durant le rationnement, qui a duré une décennie au Royaume-Uni, les femmes enceintes et les enfants avaient droit à des rations de sucre comparables aux portions recommandées aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et correspondant à environ 40 grammes par jour pour les adultes, 15 grammes pour les enfants et aucun sucre pour les bambins de moins de 2 ans. Or, dès que le rationnement du sucre a cessé, en septembre 1953, la consommation de cet aliment s'est accrue brusquement, doublant en l'espace de quelques mois. Les chercheurs ont vu dans cet événement marqué par un changement de situation radicale une occasion unique d'étudier, dans un contexte naturel et réel, les effets de la consommation de sucre en bas âge sur la santé plus tard dans la vie. Pour ce faire, les chercheurs ont accédé aux données de la UK Biobank, qui rassemble des informations relatives à la santé d'un demi-million de personnes. Ils ont ainsi pu comparer des adultes âgés de 51 à 66 ans, ayant été conçus au cours des 1000 jours précédant la fin du rationnement, soit avant septembre 1953, à d'autres adultes, dont la conception a eu lieu dans les mois ayant suivi la fin du rationnement. Ils ont alors constaté que ceux qui avaient été exposés à un très faible apport en sucre durant leur vie utérine, ainsi que durant les deux années suivant leur naissance, présentaient un risque 35 % moindre de développer un diabète de type 2 et 20 % moindre de souffrir d'hypertension à l'âge adulte par rapport aux individus conçus une fois que le rationnement avait été levé. Et chez les personnes qui avaient néanmoins développé ces maladies, la restriction en sucre qu'elles avaient subie avait repoussé de 4 ans l'apparition de leur diabète et de 2 ans celle de leur hypertension. Les chercheurs ont également noté que si la restriction en sucre n'avait été présente que durant la vie in utero, elle s'avérait tout de même protectrice et permettait d'expliquer le tiers de la réduction maximale observée du risque des deux maladies et le quart du retard dans l'apparition de ces pathologies. Toutefois, la réduction du risque s'accroissait particulièrement quand le rationnement en sucre avait persisté au-delà de 6 mois après la naissance, moment qui coïncide souvent avec l'introduction d'aliments solides, précisent les auteurs de l'étude. Cette réduction atteignait la valeur maximale chez les enfants qui n'avaient commencé à recevoir des aliments autres que du lait maternel que vers l'âge de 2 ans, comme recommandé par l'OMS, ajoute en entrevue la co-autrice de l'article Claire Boone, qui est professeure au département d'économie ainsi que d'équité, d'éthique et de politique de l'Université McGill. Pour expliquer comment le sucre ajouté à l'alimentation durant la gestation et au tout début de la vie des enfants compromet la santé à l'âge adulte, les auteurs de l'article relatent des études animales ayant montré que des diètes élevées en sucre durant la grossesse augmentent les facteurs de risque liés au diabète et à l'hypertension, tels que la résistance à l'insuline et l'intolérance au glucose durant la vie adulte. Il rappelle aussi que des études chez l'humain semblent montrer une association entre un régime riche en sucre durant la grossesse et l'allaitement et un risque accru d'obésité chez l'enfant à naître. Autre explication, l'exposition au sucre tôt dans la vie peut nuire à la santé en intensifiant une préférence pour le goût sucré qui perdurera. Le début de la vie et la petite enfance en particulier sont des périodes critiques où se développe le goût pour les sucreries, ou même une dépendance, qui peut contribuer à une consommation élevée de sucre durant toute la vie, avancent les chercheurs. D'importants bénéfices. Cette étude montre clairement qu'adhérer aux recommandations de l'OMS, qui correspondent à ce qu'ont subi les bébés durant le rationnement, tôt dans la vie d'un enfant, procurera d'importants bénéfices pour sa santé future, concluent les chercheurs. Notre étude montre que c'est une bonne idée de réduire la consommation de sucre ajouté durant la grossesse et les premières années de vie de l'enfant. Mais nous reconnaissons qu'il est très difficile de le faire, car il y a du sucre partout, y compris dans la préparation lactée pour nourrissons, les aliments solides pour enfants et pour adultes. Il est donc important de lire la liste des ingrédients des aliments que l'on achète, particulièrement des aliments pour bébés et enfants, ainsi que la valeur nutritive de ces aliments, qui nous renseigne à la fois sur la quantité de sucre ajouté que contient l'aliment et sur le pourcentage de la valeur quotidienne recommandée qu'il représente, observe Mme Boone. Alors qu'on recommande que l'alimentation des enfants de moins de 2 ans soit exempte de tout sucre ajouté, il n'y a aucune réglementation limitant l'ajout de sucre dans les aliments au Canada, et aucune ligne directrice exhortant notamment les fabricants à ne pas ajouter de sucre dans les aliments pour nourrissons, déplore la chercheuse, qui se définit comme une économiste de la santé, tout comme les 2 autres signataires de l'article. La première autrice de l'étude, Tadeja Grackner, de l'Université de la Californie du Sud, située à Los Angeles, étudie aussi les taxes sur le sucre qui ont été instaurées dans certaines régions des États-Unis et du Mexique. À Berkeley, en Californie, par exemple, on a adopté une taxe plus élevée sur les sucreries ainsi que sur les boissons édulcorées, telles que les boissons gazeuses, les jus de fruits et les eaux vitaminées. Des études ont montré que ces taxes diminuaient un peu la consommation de ces boissons, indique Claire Boone, qui voit une stratégie intéressante à considérer au Canada si l'on se donne comme objectif de réduire la consommation de sucre et de boissons sucrées. Mais je ne crois pas que les gouvernements ont cette ambition en ce moment, dit-elle. Les chercheurs poursuivent leur étude en se concentrant désormais sur le risque de cancer et le risque d'inflammation, qui est un précurseur de nombreuses maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension, que l'on développe à l'âge adulte. C'était « Bannir le sucre durant les premières années de vie réduit le risque de maladies chroniques », un texte de Pauline Gravel paru le 7 novembre 2024 dans Le Devoir.
Montres intelligentes, un faux ami pour la santé? Un texte de Alice Gérard-Bossé, paru le 2 novembre 2024 dans La Presse. Des données de stress qui causent de l'anxiété, des données de sommeil qui causent de l'insomnie, les montres intelligentes, toujours plus sophistiquées, peuvent ironiquement créer des problèmes qu'elles prétendent résoudre. Chaque matin, dès que David Paciola se réveille, sa montre intelligente l'informe qu'il a eu un sommeil agité et qu'il manque de sommeil paradoxal. Citation. Les scores de qualité de sommeil, à première vue, c'est intéressant. Mais pour quelqu'un comme moi qui a de la difficulté avec le sommeil, ça m'a plus créé un stress d'essayer d'atteindre un bon score. Fin de citation, confie David Paciola. L'homme de 44 ans s'est procuré sa première montre intelligente il y a une dizaine d'années pour s'entraîner au Ironman, des triathlons longue distance. Les montres connectées connaissent une popularité croissante à l'échelle mondiale. Environ 454 millions de personnes possèdent un tel appareil, selon les estimations de Statista Market Insights. C'est 10 fois plus qu'en 2017. L'appareil attaché à son poignet est l'allié de M. Paciola pour l'entraînement. Il lui permet de suivre sa fréquence cardiaque, sa cadence de course et sa vitesse. Chaque jour, il consacre une quinzaine de minutes à analyser ses données. Citation. Ça me permet de voir si je progresse. Fin de citation, dit-il. Sa montre lui fournit des informations précieuses sur son état physique. En analysant des indicateurs comme la variabilité de la fréquence cardiaque, il peut relever rapidement les premiers signes de fatigue et adapter son entraînement en conséquence. Citation. Je suis convaincu que ça m'a permis d'éviter des semaines de surentraînement. Fin de citation. En dehors des séances d'entraînement, il reçoit aussi de nombreuses autres informations fournies par la montre, notamment celles liées au sommeil. Citation. Je suis tombé dans une spirale où je cherchais sans cesse à obtenir le meilleur score de sommeil possible. Fin de citation. La quête du sommeil parfait. La situation de David Paciola est semblable à ce que le docteur Milan Nigam, neurologue et somnologue à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, observe sur le terrain. Citation. On voit des personnes qui n'avaient même pas d'insomnie, mais qui en développent parce qu'elles utilisent leur montre intelligente pour traquer leurs activités physiques et découvrent par la bande toutes les statistiques sur leur sommeil. Fin de citation. Être excessivement conscient de son sommeil peut entraîner une anxiété de performance ou une quête du sommeil parfait, connue sous le nom d'orthosomnie, explique-t-il. Les données doivent être interprétées avec prudence, souligne le spécialiste. En règle générale, les montres sont assez fiables pour indiquer le moment de l'endormissement et du réveil, mais elles le sont moins pour déterminer le stade de sommeil, léger, profond et paradoxal, dans lequel on se trouve. Citation. Et même si les données étaient parfaitement fiables, le corps humain va avoir différentes quantités des différents stades de sommeil toutes les nuits. Ce n'est pas nécessairement des choses qu'on doit aller essayer de moduler. Fin de citation, dit-il. Une montre qui rend anxieux. Les données sont nombreuses et peuvent rendre anxieux, observe aussi le docteur Mathieu Pelletier, médecin de famille au groupe de médecine de famille universitaire, GMFU, du nord de la Naudière. Certaines fonctionnalités peuvent également avoir des effets indésirables. Des montres connectées, comme celle de la marque Garmin, se vantent de surveiller votre niveau de stress 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Citation. Ça peut être positif et permettre aux patients de se questionner sur leur état. Mais ça peut aussi augmenter l'anxiété et les symptômes de panique chez quelqu'un qui a un trouble anxieux et qui voit les chiffres de la montre changer. Fin de citation, dit le résident en psychiatrie à l'Université de Montréal, Laurent Encrief. Éviter des AVC. Les avantages de la montre sont toutefois plus marqués dans certaines spécialités médicales, comme la cardiologie. Citation. On a de plus en plus de patients qui viennent à l'urgence parce qu'ils remarquent un rythme cardiaque anormal sur leur montre. Ça nous aide énormément. Fin de citation, dit le docteur Peter Guerra, cardiologue, électrophysiologiste et chef du département de médecine spécialisée à l'Institut de cardiologie de Montréal, ICM. Les montres qui mesurent la fréquence cardiaque peuvent également aider à détecter divers problèmes médicaux, comme la fibrillation auriculaire. Ce trouble provoque un rythme cardiaque irrégulier et rapide, pouvant entraîner des AVC. Citation. Si la fibrillation survient de façon intermittente, on peut ne pas le détecter quand le patient vient pour ses rendez-vous habituels à l'hôpital. Si on diagnostique plus précocement ces cas avec une montre, on peut donner des traitements plus rapidement aux patients et éviter des AVC. Fin de citation. Dr. Peter Guerra, chef du département de médecine spécialisée à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bien que les montres ne soient pas aussi performantes que l'électrocardiogramme obtenu à l'hôpital, citation, c'est suffisant pour voir si le rythme cardiaque est normal ou anormal, fin de citation, indique le docteur Guerra. Il recommande même à ses patients qui ont de l'arythmie de se procurer une montre ou un autre appareil permettant de suivre la fréquence cardiaque. Citation, ça permet de mieux documenter le nombre d'épisodes qu'ils font. Fin de citation, dit-il. Détecter les chutes. Un nombre croissant de personnes âgées portent aussi ces montres pour leur fonction de détection des chutes, observe la docteure Joëlle Bertrand-Bovet, médecin de famille à l'hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe. Citation. On voit régulièrement des gens qui arrivent à l'hôpital, à l'urgence, parce qu'ils sont tombés et c'est leur montre intelligente qui a appelé les secours. Fin de citation, dit-elle. L'Apple Watch, par exemple, appelle automatiquement les services d'urgence si elle ne détecte aucun mouvement pendant une minute après une chute. Elle envoie également un message au contact d'urgence pour leur indiquer la position de la personne. C'était Montres intelligentes, un faux ami pour